Le contrat de mariage, troisième partie. Ce jeune homme ressemblait à un habile cocher qui tient les rênes d'un attelage à quatre chevaux et s'amuse à les animer, à les retenir. Il déchaînait les passions, il les calmait tour à tour en faisant suer dans son harnais Paul, dont la vie et le bonheur étaient à tout moment en question, et sa cliente, qui ne voyait pas clair à travers les tournoiements de la discussion. « Madame Evangelista, dit-il après une pause, peut délaisser dès aujourd'hui les inscriptions 5% et vendre son hôtel. Je lui en ferai trouver 300 000 francs en l'exploitant par lot. Sur ce prix, elle vous remettra 150 000 francs. Ainsi, madame vous donnera 950 000 francs immédiatement. Si ce n'est pas ce qu'elle doit à sa fille, trouvez beaucoup de dots semblables en France. » « Bien, dit maître Mathias, mais que deviendra madame ?» À cette question, qui supposait un assentiment, Solonet se dit en lui-même « Allons donc, mon vieux loup, te voilà pris !»« Madame, répondit à haute voix le jeune notaire, madame gardera les 50 000 écus restant sur le prix de son hôtel. Cette somme, jointe au produit de son mobilier, peut se placer en rente viagère et lui procurera 20 000 livres de rente. Monsieur le comte lui arrangera une demeure chez lui, Lanstrac est grand. Vous avez un hôtel à Paris, dit-il en s'adressant directement à Paul. Madame, votre belle-mère peut donc vivre partout avec vous. Une veuve qui, sans avoir à supporter les charges d'une maison, possède 20 000 livres de rente, est plus riche que ne l'était madame quand elle jouissait de toute sa fortune. Madame Evangelista n'a que sa fille. Monsieur le comte est également seul. Vos héritiers sont éloignés. Aucune collision d'intérêt n'est à craindre. La belle-mère et le gendre qui se trouvent dans les conditions où vous êtes forment toujours une même famille. Madame Evangelista compensera le déficit actuel par les bénéfices d'une pension qu'elle vous donnera sur ses 20 000 livres de rente viagère, ce qui aidera d'autant votre existence. Nous connaissons madame trop généreuse, trop grande, pour supposer qu'elle veuille être à charge à ses enfants. Ainsi, vous vivrez unis, heureux, en pouvant disposer de 100 000 francs par an. Somme suffisante, n'est-ce pas, monsieur le comte ? Pour jouir en tout pays des agréments de l'existence et satisfaire ses caprices. Et croyez-moi, les jeunes mariés sentent souvent la nécessité d'un tiers dans leur ménage. Or, je le demande, quel tiers plus affectueux qu'une bonne mère ? Paul croyait entendre un ange en entendant parler Solonet. Il regarda Mathias pour savoir s'il ne partageait pas son admiration pour la chaleureuse éloquence de Solonet, car il ignorait que sous les fins emportements de leurs paroles passionnées, les notaires, comme les avoués, cachent la froideur et l'attention continue des diplomates. « Un petit paradis !» s'écria le vieillard. Stupéfait par la joie de son client, Mathias alla s'asseoir sur une ottomane, la tête dans une de ses mains, plongée dans une méditation évidemment douloureuse. La lourde phraséologie dans laquelle les gens d'affaires enveloppent à dessein leur malice, il la connaissait et n'était pas homme à s'y laisser prendre. Il se mit à regarder à la dérobée son confrère et madame Evangelista, qui continuèrent à converser avec Paul. Et il essaya de surprendre quelques indices du complot dont la trame, si savamment ourdie, commençait à se laisser voir. « Monsieur, dit Paul à Solonet, je vous remercie du soin que vous prenez à concilier nos intérêts. Cette transaction résout toutes les difficultés plus heureusement que je ne l'espérais. Si toutefois elle vous convient, madame, dit-il en se tournant vers madame Evangelista, car je ne voudrais rien de ce qui ne vous arrangerait pas également. » « Moi, reprit-elle, tout ce qui fera le bonheur de mes enfants me comblera de joie. Ne me comptez pour rien. »«
Il n'en doit pas être ainsi, dit vivement Paul.
Si votre existence n'était pas honorablement assurée, Nathalie et moi nous en souffririons plus que vous n'en souffririez vous-même. Soyez sans inquiétude, monsieur le comte, reprit Solonet. Ah ! Pensa maître Mathias. Ils vont lui faire baiser les verges avant de lui donner le fouet. Rassurez-vous, disait Solonet. Il se fait en ce moment tant de spéculations à Bordeaux que les placements en viager s'y négocient à des taux avantageux. Après avoir prélevé sur le prix de l'hôtel et du mobilier les 50 000 écus que nous vous devrons, je crois pouvoir garantir à madame qu'il lui restera 250 000 francs. Je me charge de mettre cette somme en rente viagère, par première hypothèque, sur des biens valant 1 000 000, et d'en obtenir 10%, 25 000 livres de rente. Ainsi nous marions, à peu de choses près, des fortunes égales. En effet, contre vos 46 000 livres de rente, mademoiselle Nathalie apporte 40 000 livres de rente en 5% et 150 000 francs en écus, susceptible de donner 7 000 livres de rente. Total, 47. Mais cela est évident, dit Paul. En achevant sa phrase, maître Solonet avait jeté sur sa cliente un regard oblique, saisi par Mathias, et qui voulait dire « Lancez la réserve !» Mais, s'écria madame Evangelista dans un accès de joie qui ne parut pas jouer, « Je puis donner à Nathalie mes diamants. Ils doivent valoir au moins 100 000 francs. »«
Nous pouvons les faire estimer, » dit le notaire, « et ceci change tout à fait la thèse.
Rien ne s'oppose alors à ce que monsieur le comte reconnaisse avoir reçu l'intégralité des sommes revenant à mademoiselle Nathalie de la succession de son père, et que les futurs époux n'entendent, au contrat, le compte de tutelle. Si madame, en se dépouillant avec une loyauté toute espagnole, remplit à 100 000 francs près ses obligations, il est juste de lui donner quittance.
Rien n'est plus juste, dit Paul. Je suis seulement confus de ces procédés généreux.
Ma fille n'est-elle pas une autre moi? Dit madame Evangelista. Maître Mathias aperçut une expression de joie sur la figure de madame Evangelista, quand elle vit les difficultés à peu près levées. Cette joie et l'oubli des diamants qui arrivaient là comme des troupes fraîches lui confirmèrent tous ses soupçons.
La scène était préparée entre eux, comme les joueurs préparent les cartes pour une partie où l'on ruinera quelques pigeons, se dit le vieux notaire.
Ce pauvre enfant que j'ai vu naître sera-t-il donc plumé vif par sa belle-mère? Rôti par l'amour et dévoré par sa femme? Moi qui ai si bien soigné ces belles terres, les verrai-je fricasser en une seule soirée? 3,5 millions qui seront hypothéqués par 1 100 000 francs de dot que ces deux femmes lui feront manger. En découvrant dans l'âme de cette femme des intentions qui, sans tenir à la scélératesse, au crime, au vol, à la supercherie, à l'escroquerie, à aucun sentiment mauvais ni à rien de blâmable, comportait néanmoins toutes les criminalités en germe. Maître Mathias n'éprouva ni douleur ni généreuse indignation. Il n'était pas le misanthrope. Il était un vieux notaire, habitué par son métier aux adroits calculs des gens du monde, à ses habiles traîtrises plus funestes que ne l'est un franc assassinat commis sur la grande route par un pauvre diable, guillotiné en grand appareil. Pour la haute société, ces passages de la vie, ces congrès diplomatiques, sont comme de petits coins honteux où chacun jette ses ordures. Plein de pitié pour son client, maître Mathias jetait un long regard sur l'avenir et n'y voyait rien de bon. « Entrons donc en campagne avec les mêmes armes, se dit-il, et battons-les. » En ce moment, Paul, Solonet et madame Evangelista, gênés par le silence du vieillard, sentirent combien l'approbation de ce censeur leur était nécessaire pour sanctionner cette transaction, et tous trois, ils le regardèrent simultanément. « Eh bien, mon cher Mathias, que pensez-vous de ceci ? lui dit Paul. « Voici ce que je pense, » répondit l'intraitable et consciencieux notaire. « Vous n'êtes pas assez riche pour faire de ces royales folies. La terre de Lanstrac, estimée à 3%, représente plus d'un million, y compris son mobilier. Les fermes du Grassol et du Guadet, votre clos de Belle-Rose, valent un autre million. Vos deux hôtels et leur mobilier, un troisième million. Contre ces 3 millions, donnant 47 200 francs de rente, Mademoiselle Nathalie apporte 800 000 francs sur le grand livre. Et supposons 100 000 francs de diamants qui me semblent une valeur hypothétique. Plus 150 000 francs d'argent, en tout 1 050 000 francs. En présence de ces faits, mon confrère vous dit glorieusement que nous marions des fortunes égales. Il veut que nous restions grevés de 100 000 francs envers nos enfants, puisque nous reconnaîtrions à notre femme, par le compte de tutelle entendu, un apport de 1 156 000 francs, en n'en recevant que 1 050 000. Vous écoutez de pareilles sornettes avec le ravissement d'un amoureux, et vous croyez que maître Mathias, qui n'est pas amoureux, peut oublier l'arithmétique et ne signalera pas la différence qui existe entre les placements territoriaux dont le capital est énorme, qui va croissant, et les revenus de la dot dont le capital est sujet à des chances et à des diminutions d'intérêt. Je suis assez vieux pour avoir vu l'argent décroître et les terres augmenter. Vous m'avez appelé, monsieur le comte, pour stipuler vos intérêts. Laissez-moi les défendre, ou renvoyez-moi. Si monsieur cherche une fortune égale en capital à la sienne, dit Solonet, nous n'avons pas 3,5 millions, rien n'est plus évident. Si vous possédez 3 accablants millions, nous ne pouvons offrir que notre pauvre petit million, presque rien. 3 fois la dot d'une archiduchesse de la maison d'Autriche. Bonaparte a reçu 250 000 francs en épousant Marie-Louise. Marie-Louise a perdu Bonaparte, dit maître Mathias en grommelant. La mère de Nathalie saisit le sens de cette phrase. « Si mes sacrifices ne servent à rien, s'écria-t-elle, je n'entends pas pousser plus loin une discussion semblable. Je compte sur la discrétion de monsieur et renonce à l'honneur de sa main pour ma fille. » Après les évolutions que le jeune notaire avait prescrites, cette bataille d'intérêts était arrivée au terme, où la victoire devait appartenir à Madame Évangélista. La belle-mère s'ouvrait le cœur, livrait ses biens, était quasi libérée. Sous peine de manquer aux lois de la générosité, de mentir à l'amour, le futur époux devait accepter ces conditions résolues par avance entre maître Solonet et Madame Évangélista. Comme une aiguille d'horloge mue par ses rouages, Paul arriva fidèlement au but. « Comment, madame ? » s'écria Paul. « En un moment, vous pourriez briser... »« Mais, monsieur, » répondit-elle, « à qui dois-je ? À ma fille. Quand elle aura 21 ans, elle recevra mes comptes et me donnera quittance. Elle possédera 1 million, et pourra, si elle veut, choisir parmi les fils de tous les pairs de France. N'est-elle pas une casa réale ? » « Madame a raison. Pourquoi serait-elle plus maltraitée aujourd'hui qu'elle ne le sera dans 14 mois ? Ne la privez pas des bénéfices de sa maternité, » dit Solonet. « Mathias ! » s'écria Paul avec une profonde douleur. « Il est 2 sortes de ruines, et vous me perdez en ce moment. » Il fit un pas vers lui, sans doute pour lui dire qu'il voulait que le contrat fût rédigé sur l'heure. Le vieux notaire prévint ce malheur par un regard qui voulait dire « Attendez !» Puis il vit des larmes dans les yeux de Paul, larmes arrachées par la honte que lui causait ce débat, par la phrase péremptoire de Madame Évangélista qui annonçait une rupture, et il les sécha par un geste, celui d'Archimède criant « Eureka !» Le mot « pair de France » avait été, pour lui, comme une torche dans un souterrain. Nathalie apparut en ce moment ravissante comme une aurore, et dit d'un air enfantin « Suis-je de trop ?»« Singulièrement de trop, ma fille !» lui répondit sa mère avec une cruelle amertume.
« Venez, ma chère Nathalie, » dit Paul en la prenant par la main et la menant à un fauteuil près de la cheminée. « Tout est arrangé. » Car il lui fut impossible de supporter le renversement de ses espérances. Mathias reprit vivement « Oui, tout peut encore s'arranger. » Semblable au général qui, dans un moment, renverse les combinaisons préparées par l'ennemi, le vieux notaire avait vu le génie qui préside au notariat lui déroulant en caractères légaux une conception capable de sauver l'avenir de Paul et celui de ses enfants. Maître Solonet ne connaissait pas d'autre dénouement à ces difficultés inconciliables que la résolution inspirée au jeune homme par l'amour et à laquelle l'avait conduit cette tempête de sentiments et d'intérêts contrariés. Aussi fut-il étrangement surpris de l'exclamation de son confrère, curieux de connaître le remède que maître Mathias pouvait trouver à un état de choses qui devait lui paraître perdu sans ressources. Il lui dit « Que proposez-vous ? » « Nathalie, ma chère enfant, laissez-nous, » dit madame Évangélista. « Mademoiselle n'est pas de trop, » répondit maître Mathias en souriant. « Je vais parler pour elle aussi bien que pour monsieur le comte. » Il se fit un silence profond, pendant lequel chacun, plein d'agitation, attendit l'improvisation du vieillard avec une indicible curiosité. « Aujourd'hui, » reprit monsieur Mathias après une pause, « la profession de notaire a changé de face. Aujourd'hui, les révolutions politiques influent sur l'avenir des familles, ce qui n'arrivait pas autrefois. » Autrefois, les existences étaient définies et les rangs étaient déterminés. Nous n'avons pas un cours d'économie politique à faire, mais un contrat de mariage, dit Solonet en laissant échapper un geste d'impatience et en interrompant le vieillard. Je vous prie de me laisser parler à mon tour, dit le bonhomme. Solonet alla s'asseoir sur l'ottomane en disant à voix basse à madame Évangélista. « Vous allez connaître ce que nous nommons entre nous le galimatia. » Les notaires sont donc obligés de suivre la marche des affaires politiques, qui maintenant sont intimement liées aux affaires des particuliers. En voici un exemple. Autrefois, les familles nobles avaient des fortunes inébranlables que les lois de la Révolution ont brisées et que le système actuel tend à reconstituer. Reprit le vieux notaire, en se livrant aussi à la faconde du tabellionaris boa constrictor, le boa notaire. Par son nom, par ses talents, par sa fortune, monsieur le comte est appelé à siéger un jour à la chambre élective. Peut-être ses destinées le mèneront-elles à la chambre héréditaire, et nous lui connaissons assez de moyens pour justifier nos prévisions. Ne partagez-vous pas mon opinion, madame ? Dit-il à la veuve. Vous avez pressenti mon plus cher espoir, dit-elle. Manerville sera pair de France ou je mourrai de chagrin. Tout ce qui peut nous acheminer vers ce but, dit maître Mathias en interrogeant l'astucieuse belle-mère par un geste de bonhomie. Et, répondit-elle, mon plus cher désir. Eh bien, reprit Mathias. « Ce mariage n'est-il pas une occasion naturelle de fonder un majorat ? Fondation qui, certes, militera dans l'esprit du gouvernement actuel pour la nomination de mon client au moment d'une fournée. Monsieur le comte y consacrera nécessairement la terre de Lanstrac, qui vaut 1 million. Je ne demande pas à mademoiselle de contribuer à cet établissement par une somme égale, ce ne serait pas juste. Mais nous pouvons y affecter 800 000 francs de son apport. » Je connais à vendre en ce moment 2 domaines qui jouxtent la terre de Lanstrac et où les 800 000 francs à employer en acquisition territoriale seront placés un jour à 4,5%. L'hôtel à Paris doit être également compris dans l'institution du majorat. Le surplus des 2 fortunes, sagement administré, suffira grandement à l'établissement des autres enfants. Si les parties contractantes s'accordent sur ces dispositions, « Monsieur le comte peut accepter votre compte de tutelle et rester chargé du reliquat. Je consens. »« Questa coda non è di questo gatto, » cette queue n'est pas de ce chat !» s'écria Madame Evangelista en regardant son parrain Solonet et lui montrant Mathias.
« Il y a quelque anguille sous roche !» lui dit à mi-voix Solonet en répondant par un proverbe français au proverbe italien.
« Pourquoi tout ce gâchis-là ? » demanda Paul à Mathias en l'emmenant dans le petit salon.
« Pour empêcher votre ruine !»
lui répondit à voix basse le vieux notaire. « Vous voulez absolument épouser une fille et une mère qui ont mangé environ 2 millions en 7 ans. Vous acceptez un débit de plus de 100 000 francs envers vos enfants auxquels vous devrez compter un jour les 1 156 000 francs de leur mère. Quand vous en recevez aujourd'hui à peine 1 million, vous risquez de voir votre fortune dévorée en 5 ans et de rester nu comme un Saint-Jean, en restant débiteur de sommes énormes envers votre femme ou ses oires. Si vous voulez vous embarquer dans cette galère, allez-y, monsieur le comte, mais laissez au moins votre vieille amie sauver la maison de Manerville. »
« Et comment la sauvez-vous ainsi ? » demanda Paul.
« Écoutez, monsieur le comte, vous êtes amoureux ? »
« Oui. »
Un amoureux est discret à peu près comme un coup de canon. Je ne veux vous rien dire. Si vous parliez, peut-être votre mariage serait-il rompu. Je mets votre amour sous la protection de mon silence. Avez-vous confiance en mon dévouement ?
Belle question !
Eh bien, sachez que Madame Evangelista, son notaire et sa fille, nous jouaient par-dessous jambes et sont plus qu'adroits. Tu Dieu, quel jeu serré !
Nathalie ? S'écria Paul.
« Je n'en mettrai pas ma main au feu, » dit le vieillard. « Vous la voulez, prenez-la, mais je désirerais voir manquer ce mariage sans qu'il y eût le moindre tort de votre côté.
Pourquoi ?
Cette fille dépenserait le Pérou. Puis elle monte à cheval comme un écuyer du cirque. Elle est quasiment émancipée. Ces sortes de filles font de mauvaises femmes. »
Paul serra la main de maître Mathias et lui dit en prenant un petit air fat.
« Soyez tranquille. Mais pour le moment, que dois-je faire ?
Tenez ferme à ces conditions. Ils y consentiront, car elles ne blessent aucun intérêt. D'ailleurs, Madame Evangelista ne veut que marier sa fille. J'ai vu dans son jeu. Défiez-vous d'elle. »
Paul rentra dans le salon, où il vit sa belle-mère causant à voix basse avec Solonet, comme il venait de causer avec Mathias. Mais en dehors de ces deux conférences mystérieuses, Nathalie jouait avec son écran. Assez embarrassée d'elle-même, elle se demandait « Par quelle bizarrerie ne me dit-on rien de mes affaires ?» Le jeune notaire saisissait en gros l'effet lointain d'une stipulation basée sur l'amour-propre des parties, et dans laquelle sa cliente avait donné tête baissée. Mais si Mathias n'était plus que notaire, Solonet était encore un peu homme et portait dans les affaires un amour-propre juvénile. Il arrive souvent ainsi que la vanité personnelle fait oublier à un jeune homme l'intérêt de son client. En cette circonstance, maître Solonet, qui ne voulut pas laisser croire à la veuve que Nestor battait Achille, lui conseillait d'en finir promptement sur ses bases. Peu lui importait la future liquidation de ce contrat. Pour lui, les conditions de la victoire étaient Madame Evangelista libérée, son existence assurée, Nathalie mariée.
« Bordeaux saura que vous donnez environ 1 100 000 francs à Nathalie et qu'il vous reste 25 000 livres de rente, » dit Solonet à l'oreille de Madame Evangelista.
« Je ne croyais pas obtenir un si beau résultat. »
« Mais, » dit-elle, « expliquez-moi donc pourquoi la création de ce majorat apaise si promptement l'orage. »«
Défiance de vous et de votre fille. Un majorat est inaliénable. Aucun des époux n'y peut toucher. »«
Ceci est positivement injurieux. »«
Non, nous appelons cela de la prévoyance. Le bonhomme vous a pris dans un piège. Refusez de constituer ce majorat. Il nous dira...
« Vous voulez donc dissiper la fortune de mon client, qui par la création du majorat est mise hors de toute atteinte, comme si les époux se mariaient sous le régime dotal. »
Solonet calma ses propres scrupules en se disant « Ces stipulations n'ont d'effet que dans l'avenir, et alors Madame Evangelista sera morte et enterrée. »
En ce moment, Madame Evangelista se contenta des explications de Solonet, en qui elle avait toute confiance. D'ailleurs, elle ignorait les lois. Elle voyait sa fille mariée, elle n'en demandait pas davantage le matin. Elle fut toute à la joie du succès. Ainsi, comme le pensait Mathias, ni Solonet ni Madame Evangelista ne comprenaient encore, dans toute son étendue, sa conception appuyée sur des raisons inattaquables.
Eh bien, monsieur Mathias, dit la veuve, tout est pour le mieux.
Madame, si vous et monsieur le comte consentez à ces dispositions, vous devez échanger vos paroles. Il est bien entendu, n'est-ce pas, dit-il en les regardant l'un et l'autre, que le mariage n'aura lieu que sous la condition de la constitution d'un majorat composé de la terre de Lanstrac et de l'hôtel situé rue de la Pépinière, appartenant au futur époux. Item de 800 000 francs pris en argent dans l'apport de la future épouse et dont l'emploi se fera en terre. Pardonnez-moi, madame, cette répétition. Un engagement positif et solennel est ici nécessaire. L'érection d'un majorat exige des formalités, des démarches à la chancellerie, une ordonnance royale. Et nous devons conclure immédiatement l'acquisition des terres, afin de les comprendre dans la désignation des biens que l'ordonnance royale a la vertu de rendre inaliénables. Dans beaucoup de familles, on ferait un compromis, mais entre vous, un simple consentement doit suffire. Consentez-vous ?
Oui, dit Madame Evangelista.
Oui, dit Paul.
Et moi ? Dit Nathalie en riant.
Vous êtes mineure, mademoiselle, lui répondit Solonet. Ne vous en plaignez pas. Il fut alors convenu que maître Mathias rédigerait le contrat, que maître Solonet minuterait le compte de tutelle et que ces actes se signeraient, suivant la loi, quelques jours avant la célébration du mariage. Après quelques salutations, les deux notaires se levèrent.
« Il pleut, Mathias. Voulez-vous que je vous reconduise ?» dit Solonet. « J'ai mon cabriolet. »«
Ma voiture est à vos ordres, » dit Paul en manifestant l'intention d'accompagner le bonhomme.
« Je ne veux pas vous voler un instant, » dit le vieillard. « J'accepte la proposition de mon confrère. »
« Eh bien, » dit Achille à Nestor quand le cabriolet roula dans les rues, « vous avez été vraiment patriarcal. En vérité, ces jeunes gens se seraient ruinés. »
« J'étais effrayé de leur avenir, »
dit Mathias en gardant le secret sur les motifs de sa proposition. En ce moment, les deux notaires ressemblaient à deux acteurs qui se donnent la main dans la coulisse après avoir joué sur le théâtre une scène de provocation haineuse.
« Mais, » dit Solonet, qui pensait alors aux choses du métier, « n'est-ce pas à moi d'acquérir les terres dont vous parlez ? N'est-ce pas l'emploi de notre dot ?
Comment pouvez-vous faire comprendre dans un majorat établi par le comte de Maderville les biens de mademoiselle Evangelista ? » répondit Mathias.
« La chancellerie nous répondra sur cette difficulté, » dit Solonet.
« Mais je suis le notaire du vendeur, aussi bien que de l'acquéreur, » répondit Mathias. « D'ailleurs, monsieur de Manerville peut acheter en son nom lors du paiement. Nous ferons mention de l'emploi des fonds d'auto. »
« Vous avez réponse à tout, mon ancien, » dit Solonet en riant. « Vous avez été surprenant ce soir. Vous nous avez battus. »
Pour un vieux qui ne s'attendait pas à vos batteries chargées à mitraille, ce n'était pas mal, hein ?
Ha ha ! Fit Solonet.
La lutte odieuse où le bonheur matériel d'une famille avait été si périlleusement risqué n'était plus pour eux qu'une question de polémique notariale.
Nous n'avons pas pour rien 40 ans de bricole, dit Mathias.
Écoutez, Solonet, reprit-il, je suis bon homme. « Vous pourrez assister au contrat de vente des terres à joindre au majorat. »«
Merci, mon bon Mathias. À la première occasion, vous me trouverez tout à vous. »
Pendant que les deux notaires s'en allaient ainsi paisiblement, sans autre émotion qu'un peu de chaleur à la gorge, Paul et Madame Evangelista se trouvaient en proie à cette trépidation de nerfs, à cette agitation précordiale,
à ces tressaillements de moelle et de cervelle que ressentent les gens passionnés après une scène où leurs intérêts et leurs sentiments ont été violemment secoués. Chez Madame Evangelista, ces derniers grondements de l'orage étaient dominés par une terrible réflexion, par une lueur rouge qu'elle voulait éclaircir. Maître Mathias n'aurait-il pas détruit en quelques minutes mon ouvrage de 6 mois ? Se dit-elle. N'aurait-il pas soustrait Paul à mon influence en lui inspirant de mauvais soupçons pendant leur conférence secrète dans le petit salon ? Elle était debout devant sa cheminée, le coude appuyé sur le coin du manteau de marbre, toute songeuse. Quand la porte cochère se ferma sur la voiture des deux notaires, elle se retourna vers son gendre, impatientée de résoudre ses doutes. « Voilà la plus terrible journée de ma vie !» s'écria Paul, vraiment joyeux de voir ses difficultés terminées. « Je ne sais rien de plus rude que ce vieux père Mathias. Que Dieu l'entende, et que je devienne pair de France !» « Chère Nathalie, je le désire maintenant plus pour vous que pour moi. Vous êtes toute mon ambition. Je ne vis qu'en vous. » En entendant cette phrase accentuée par le cœur, en voyant surtout le limpide azur des yeux de Paul, dont le regard, aussi bien que le front, n'accusait aucune arrière-pensée, la joie de Madame Evangelista fut entière. Elle se reprocha les paroles un peu vives par lesquelles elle avait éperonné son gendre, et dans l'ivresse du succès, elle se résolut à resserrer l'avenir. Elle reprit sa contenance calme, fit exprimer à ses yeux cette douce amitié qui la rendait si séduisante, et répondit à Paul. « Je puis vous en dire autant. Aussi, cher enfant, peut-être ma nature espagnole m'a-t-elle emporté plus loin que mon cœur ne le voulait. Soyez ce que vous êtes, bon comme Dieu. Ne me gardez point rancune des quelques paroles inconsidérées. Donnez-moi la main. » Paul était confus. Il se trouvait mille torts. Il embrassa Madame Evangelista. « Cher Paul, dit-elle tout émue, pourquoi ces deux escogriffes n'ont-ils pas arrangé cela sans nous, puisque tout devait si bien s'arranger ?»« Je n'aurais pas su, dit Paul. « Combien vous étiez grande et généreuse !»« Bien cela, Paul !» dit Nathalie en lui serrant la main. « Nous avons, dit Madame Evangelista, plusieurs petites choses à régler, mon cher enfant. Ma fille et moi, nous sommes au-dessus de niaiseries auxquelles certaines gens tiennent beaucoup. Ainsi, Nathalie n'a nul besoin de diamants, je lui donne les miens. « Ah, oh, chère mère, croyez-vous que je puisse les accepter ?» s'écria Nathalie. « Oui, mon enfant, ils sont une condition du contrat. »« Je ne le veux pas, je ne me marierai pas, » répondit vivement Nathalie. « Gardez ces pierreries que mon père prenait tant de plaisir à vous offrir. Comment Monsieur Paul peut-il exiger ?»« Tais-toi, chère fille, » dit la mère dont les yeux se remplirent de larmes. « Mon ignorance des affaires exige bien davantage. »« Quoi donc ?» « Je vais vendre mon hôtel pour m'acquitter de ce que je te dois. »« Que pouvez-vous me devoir ? » dit-elle, « à moi qui vous dois la vie. Puis-je m'acquitter jamais envers vous, moi ? Si mon mariage vous coûte le plus léger sacrifice, je ne veux pas me marier. »« Enfant !»« Chère Nathalie, » dit Paul, « comprenez donc que ce n'est ni moi ni votre mère, ni vous qui exigeons ces sacrifices, mais les enfants. » « Et si je ne me marie pas ? » dit-elle en l'interrompant. « Vous ne m'aimez donc point, » dit Paul. « Allons, petite folle, crois-tu qu'un contrat soit un château de cartes sur lequel tu puisses souffler à plaisir ? Chère ignorante, tu ne sais pas combien nous avons eu de peine à bâtir un majorat à l'aîné de tes enfants. Ne nous rejette pas dans les ennuis d'où nous sommes sortis. »« Pourquoi ruiner ma mère ? » dit Nathalie en regardant Paul. « Pourquoi êtes-vous si riche ? » répondit-il en souriant. « Ne vous disputez pas trop, mes enfants, vous n'êtes pas encore mariés, » dit Madame Evangelista. « Paul, » reprit-elle, « il ne faut donc ni corbeille, ni joyaux, ni trousseau. Nathalie a tout à profusion. Réservez plutôt l'argent que vous auriez mis à des cadeaux de noces, pour vous assurer à jamais un petit luxe intérieur. Je ne sais rien de plus sottement bourgeois que de dépenser 100 000 francs à une corbeille de laquelle il ne subsiste rien un jour qu'un vieux coffre en satin blanc. Au contraire, 5 000 francs par an attribués à la toilette évitent 1000 soucis à une jeune femme et lui restent pendant toute la vie. D'ailleurs, l'argent d'une corbeille sera nécessaire à l'arrangement de votre hôtel à Paris. Nous reviendrons à Lanstrac au printemps, car pendant l'hiver, Solonet aura liquidé mes affaires.
Tout est pour le mieux, dit Paul au comble du bonheur.
Je verrai donc Paris, s'écria Nathalie avec un accent qui aurait justement effrayé un de Marsay.
Si nous nous arrangeons ainsi, dit Paul, je vais écrire à de Marsay de me prendre une loge aux Italiens et à l'opéra pour l'hiver.
Vous êtes bien aimable, je n'osais pas vous le demander, dit Nathalie. Le mariage est une institution fort agréable si elle donne aux maris le talent de deviner les désirs de leur femme.
Ce n'est pas autre chose, dit Paul. Mais il est minuit, il faut partir.
Pourquoi si tôt aujourd'hui ? Dit madame Évangélista, qui déploya les câlineries auxquelles les hommes sont si sensibles. Quoique tout se fût passé dans les meilleurs termes, et selon les lois de la plus exquise politesse, l'effet de la discussion de ses intérêts avait néanmoins jeté chez le gendre et chez la belle-mère un germe de défiance et d'inimitié prêt à lever au premier feu d'une colère ou sous la chaleur d'un sentiment trop violemment heurté. Dans la plupart des familles, la constitution des dots et les donations à faire au contrat de mariage engendrent ainsi des hostilités primitives, soulevées par l'amour-propre, par la lésion de quelques sentiments, par le regret des sacrifices et par l'envie de les diminuer. Ne faut-il pas un vainqueur et un vaincu lorsqu'il s'élève une difficulté? Les parents des futurs essaient de conclure avantageusement cette affaire à leurs yeux purement commerciale, et qui comporte les ruses, les profits, les déceptions du négoce. La plupart du temps, le mari est seul initié dans les secrets de ces débats, et la jeune épouse reste, comme le fut Nathalie, étrangère aux stipulations qui la font ou riche ou pauvre. En s'en allant, Paul pensait que, grâce à l'habileté de son notaire, sa fortune était presque entièrement garantie de toute ruine. Si madame Évangélista ne se séparait point de sa fille, leur maison aurait au-delà de 100 000 francs à dépenser par an. Ainsi, toutes ses prévisions d'existence heureuse se réalisaient. La belle-mère me paraît être une excellente femme, se dit-il encore sous le charme des patelineries par lesquelles madame Évangélista s'était efforcée de dissiper les nuages élevés par la discussion.
Mathias se trompe. Ces notaires sont singuliers, ils enveniment tout. Le mal est venu de ce petit ergoteur de Solonet qui a voulu faire la bile.
Pendant que Paul se couchait en récapitulant les avantages qu'il avait remportés dans cette soirée, madame Évangélista s'attribuait également la victoire.
« Eh bien, mère chérie, es-tu contente ?»
dit Nathalie en suivant sa mère dans sa chambre à coucher.
« Oui, mon amour, répondit la mère, tout a réussi selon mes désirs, et je me sens un poids de moins sur les épaules qui ce matin m'écrasait. Paul est une excellente patte d'homme. Ce cher enfant, oui, certes, nous lui ferons une belle existence. Tu le rendras heureux, et moi je me charge de sa fortune politique. L'ambassadeur d'Espagne est un de mes amis, je vais renouer avec lui, comme avec toutes mes connaissances. Oh, nous serons bientôt au cœur des affaires, tout sera joie pour nous. À vous les plaisirs, chers enfants. À moi les dernières occupations de la vie, le jeu de l'ambition. Ne t'effraie pas de me voir vendre mon hôtel. Crois-tu que nous revenions jamais à Bordeaux? À Lanstrac? Oui, mais nous irons passer tous les hivers à Paris, où sont maintenant nos véritables intérêts.
Eh bien, Nathalie, était-il si difficile de faire ce que je te demandais?
Ma petite mère, par moments, j'avais honte.
Solonet me conseille de mettre mon hôtel en rente viagère, se dit madame Évangélista,
mais il faut faire autrement. Je ne veux pas t'enlever un liard de ma fortune. »
Je vous ai vus tous bien en colère, dit Nathalie. Comment cette tempête s'est-elle donc apaisée?
Par l'offre de mes diamants, répondit Madame Évangélista. Solonet avait raison. Avec quel talent il a conduit l'affaire. Mais, dit-elle, prends donc mon écrin, Nathalie. Je ne me suis jamais sérieusement demandé ce que valent ces diamants. Quand je disais 100 000 francs, j'étais folle. Madame de Gilla ne prétendait-elle pas que le collier et les boucles d'oreilles que m'a donné ton père le jour de notre mariage valaient au moins cette somme? Mon pauvre mari était d'une prodigalité. Puis mon diamant de famille, celui que Philippe II a donné au duc d'Albe et que m'a légué ma tante, le discreto, fut, je crois, estimé jadis 4 000 quadruples.
Nathalie apporta sur la toilette de sa mère ses colliers de perles, ses parures, ses bracelets d'or, ses pierreries de toute nature, et les y entassa complaisamment, en manifestant l'inexprimable sentiment qui réjouit certaines femmes à l'aspect de ces trésors, avec lesquels, suivant les commentateurs du Talmud, les anges maudits séduisirent les filles de l'homme en allant chercher au fond de la terre ces fleurs du feu céleste.
« Certes, dit Madame Évangélista, quoi qu'en fait de joyaux, je ne sois bonne qu'à les recevoir et à les porter. Il me semble qu'en voici pour beaucoup d'argent. Puis, si nous ne faisons plus qu'une seule maison, je peux vendre mon argenterie, qui seulement au poids vaut 30 000 francs. Quand nous l'avons apportée de Lima, je me souviens qu'ici la douane lui attribuait cette valeur. Solonet a raison. J'enverrai chercher Elie Magu. Le juif m'estimera ses écrins. Peut-être serais-je dispensé de mettre le reste de ma fortune à fond perdu. »
Le beau collier de perles, dit Nathalie.
J'espère qu'il te le laissera, s'il t'aime.
Ne devrait-il pas faire remonter tout ce que je lui remettrai de pierreries et te les offrir? D'après le contrat, les diamants t'appartiennent.
Allons, adieu, mon ange. Après une si fatigante journée, nous avons toutes deux besoin de repos. »
La petite maîtresse, la créole, la grande dame incapable d'analyser les dispositions d'un contrat qui n'était pas encore formulé, s'endormit donc dans la joie en voyant sa fille mariée à un homme facile à conduire, qui les laisserait toutes deux également maîtresses au logis, et dont la fortune, réunie aux leurs, permettrait de ne rien changer à leur manière de vivre. Après avoir rendu ses comptes à sa fille, dont toute la fortune était reconnue, Madame Évangélista se trouvait encore à son aise.
« Étais-je folle de tant m'inquiéter ? » se dit-elle. « Je voudrais que le mariage fût fini. »
Ainsi, Madame Évangélista, Paul, Nathalie et les deux notaires étaient tous enchantés de cette première rencontre. Le Te Deum se chantait dans les deux camps. Situation dangereuse. Il vient un moment où cesse l'erreur du vaincu. Pour la veuve, son gendre était le vaincu. Le lendemain matin, Elie Magu vint chez Madame Évangélista, croyant, d'après les bruits qui couraient sur le mariage prochain de Mademoiselle Nathalie et du comte Paul, qu'il s'agissait de parures à leur vendre. Le juif fut donc étonné en apprenant qu'il s'agissait au contraire d'une prisée quasi légale des diamants de la belle-mère. L'instinct des juifs, autant que certaines questions captieuses, lui fit comprendre que cette valeur allait sans doute être comptée dans le contrat de mariage. Les diamants n'étant pas à vendre, il les prisa comme s'ils devaient être achetés par un particulier chez un marchand. Les joailliers seuls savent reconnaître les diamants de l'Asie et de ceux du Brésil. Les pierres de Golconde et de Visapour se distinguent par une blancheur, par une netteté de brillant que n'ont pas les autres, dont l'eau comporte une teinte jaune qui les fait, à poids égal, déprécier lors de la vente. Les boucles d'oreilles et le collier de Madame Évangélista, entièrement composés de diamants asiatiques, furent estimés 250 000 francs par Elie Magus. Quant au discreto, c'était selon lui l'un des plus beaux diamants possédés par des particuliers. Il était connu dans le commerce et valait 100 000 francs. En apprenant un prix qui lui révélait les prodigalités de son mari, Madame Évangélista demanda si elle pouvait avoir cette somme immédiatement.
« Madame, répondit le juif, si vous voulez vendre, je ne donnerai que 75 000 du brillant et 160 000 du collier et des boucles d'oreilles. »
« Et pourquoi ce rabais ? » demanda Madame Évangélista, surprise.
« Madame, répondit le juif, plus les diamants sont beaux, plus longtemps nous les gardons. La rareté des occasions de placement est en raison de la haute valeur des pierres. Comme le marchand ne doit pas perdre les intérêts de son argent, les intérêts à recouvrer, joints aux chances de la baisse et de la hausse à laquelle sont exposées ces marchandises, explique la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous avez perdu depuis 20 ans les intérêts de 300 000 francs. Si vous portiez 10 fois par an vos diamants, ils vous coûtaient chaque soirée 1 000 écus. Combien de belles toilettes n'a-t-on pas pour 1 000 écus? Ceux qui conservent les diamants sont donc des fous. Mais heureusement pour nous, les femmes ne veulent pas comprendre ces calculs.
Je vous remercie de me les avoir exposés. « J'en profiterai. »«
Vous voulez vendre ?» reprit avidement le juif.
« Que vaut le reste ?» dit Madame Évangélista. Le juif considéra l'or des montures, mit les perles au jour, examina curieusement les rubis, les diadèmes, les agrafes, les bracelets, les fermoirs, les chaînes, et dit en marmottant « Il s'y trouve beaucoup de diamants portugais venus du Brésil. » Cela ne vaut pour moi que 100 000 francs. Mais de marchand à chaland, ajouta-t-il, ces bijoux se vendraient plus de 50 000 écus.
Nous les gardons, dit Madame Évangélista.
Vous avez tort, répondit Élie Magu. Avec les revenus de la somme qu'ils représentent, en 5 ans vous auriez d'aussi beaux diamants et vous conserveriez le capital. Cette conférence assez singulière fut connue et corrobora certaines rumeurs excitées par la discussion du contrat. En province, tout se sait. Les gens de la maison ayant entendu quelques éclats de voix supposèrent une discussion beaucoup plus vive qu'elle ne l'était. Leurs commérages avec les autres valets s'étendirent insensiblement et de cette basse région remontèrent au maître. L'attention du beau monde et de la ville était si bien fixée sur le mariage de 2 personnes également riches, petits ou grands, chacun s'en occupant tant, que 8 jours après, il circulait dans Bordeaux les bruits étranges. Madame Évangélista vendait son hôtel, elle était donc ruinée. Elle avait proposé ses diamants à Élie Magu, rien n'était conclu entre elle et le comte de Manerville, ce mariage se ferait-il? Les uns disaient oui, les autres non. Les 2 notaires questionnés démentirent ces calomnies et parlèrent des difficultés purement réglementaires suscitées par la constitution d'un majorat. Mais quand l'opinion publique a pris une pente, il est bien difficile de la lui faire remonter. Quoique Paul allât tous les jours chez Madame Évangélista, malgré l'assertion des 2 notaires, les doucereuses calomnies continuèrent. Plusieurs jeunes filles, leur mère ou leur tante, chagrines d'un mariage rêvé pour elles-mêmes ou pour leur famille, ne pardonnaient pas plus à Madame Évangélista son bonheur qu'un auteur ne pardonne un succès à son voisin. Quelques personnes se vengeaient de 20 ans de luxe et de grandeur que la maison espagnole avait fait peser sur leur amour-propre. Un grand homme de préfecture disait que les 2 notaires et les 2 familles ne pouvaient pas tenir un autre langage ni une autre conduite dans le cas d'une rupture. Le temps que demandait l'érection du majorat confirmait les soupçons des politiques bordelais. « Ils amuseront le tapis pendant tout l'hiver, puis au printemps ils iront aux eaux et nous apprendrons dans 1 an que le mariage est manqué. « Vous comprenez, disaient les uns, que pour ménager l'honneur des 2 familles, les difficultés ne seront venues d'aucun côté. » Ce sera la chancellerie qui refusera. Ce sera quelque chicane élevée sur le majorat qui fera naître la rupture.
Madame Évangélista, disaient les autres, menez un train auquel les mines de Valenciana n'auraient pas suffi. Quand il a fallu fondre la cloche, il ne se sera plus rien trouvé.
excellente occasion pour chacun de supputer les dépenses de la belle veuve afin d'établir catégoriquement sa ruine. Les rumeurs furent telles qu'il se fit des paris pour ou contre le mariage. Suivant la jurisprudence mondaine, ces caquetages couraient à l'insu des parties intéressées. Personne n'était assez ennemi ni assez ami de Paul ou de Madame Évangélista pour les en instruire. Paul eut quelques affaires à Lanstrac et profita de la circonstance pour y faire une partie de chasse avec plusieurs jeunes gens de la ville, espèce d'adieu à la vie de garçon. Cette partie de chasse fut acceptée par la société comme une éclatante confirmation des soupçons publics. Dans ces conjonctures, Madame de Gilla, qui avait une fille à marier, jugea convenable de sonder le terrain et d'aller s'attrister joyeusement de l'échec reçu par les Évangélista. Nathalie et sa mère furent assez surprises en voyant la figure mal grimée de la marquise et lui demandèrent s'il ne lui était rien arrivé de fâcheux. « Mais, dit-elle, vous ignorez donc les bruits qui circulent dans Bordeaux ? Quoique je les croie faux, je venais savoir la vérité pour les faire cesser, sinon partout, au moins dans mon cercle d'amis. Être les dupes ou les complices d'une semblable erreur est une position trop fausse pour que de vrais amis veuillent y rester. « Mais que se passe-t-il donc ? Dirent la mère et la fille. Madame de Gilla se donna le plaisir de raconter les dires de chacun, sans épargner un seul coup de poignard à ses deux amies intimes. Nathalie et Madame Évangélista se regardèrent en riant, mais elles avaient bien compris le sens de la narration et les motifs de leur amie. L'Espagnole prit sa revanche à peu près comme Célimène avec Arsinoé. « Ma chère !» Ignorez-vous donc, vous qui connaissez la province, ignorez-vous ce dont est capable une mère quand elle a sur les bras une fille qui ne se marie pas faute de dot et d'amoureux, faute de beauté, faute d'esprit, quelquefois faute de tout? Elle arrêterait une diligence, elle assassinerait, elle attendrait un homme au coin d'une rue, elle se donnerait 100 fois elle-même si elle valait quelque chose. Il y en a beaucoup dans cette situation à Bordeaux qui nous prêtent sans doute leurs pensées et leurs actions. Les naturalistes nous ont dépeint les mœurs de beaucoup d'animaux féroces, mais ils ont oublié la mère et la fille en quête d'un mari. C'est des hyènes qui, selon le psalmiste, cherchent une proie à dévorer et qui joignent au naturel de la bête l'intelligence de l'homme et le génie de la femme. Que ces petites araignées bordelaises, Mademoiselle de Bellor, Mademoiselle de Trans, etc., occupées depuis si longtemps à travailler leur toile sans y voir de mouche, sans entendre le moindre battement d'ailes alentour, soient furieuses, je le conçois. Je leur pardonne leurs propos envenimés. Mais que vous, qui marierez votre fille quand vous le voudrez, vous, riche et titré, vous qui n'avez rien de provincial, vous dont la fille est spirituelle, pleine de qualités, jolie, en position de choisir. Que vous, si distinguée des autres par vos grâces parisiennes, ayez pris le moindre souci, voilà pour nous un sujet d'étonnement. Dois-je compte au public des stipulations matrimoniales que les gens d'affaires ont trouvées utiles dans les circonstances politiques qui domineront l'existence de mon gendre ? La manie des délibérations publiques va-t-elle atteindre l'intérieur des familles? Fallait-il convoquer par lettre close les pères et les mères de votre province pour les faire assister au vote des articles de notre contrat de mariage? Un torrent d'épigrammes roula sur Bordeaux. Madame Évangélista quittait la ville. Elle pouvait passer en revue ses amis, ses ennemis, les caricaturer, les fouetter à son gré sans avoir rien à craindre. Aussi donna-t-elle passage à ses observations gardées, à ses vengeances ajournées, en cherchant quel intérêt avait telle ou telle personne à nier le soleil en plein midi. « Mais, ma chère, dit la marquise de Gilla, le séjour de monsieur de Manerville à Lanstrac s'est fait aux jeunes gens en semblables circonstances. Eh, ma chère, dit la grande dame en l'interrompant, « croyez-vous que nous adoptions les petitesses du cérémonial bourgeois ?
Le comte Paul est-il tenu en laisse comme un homme qui peut s'enfuir? Croyez-vous que nous ayons besoin de le faire garder par la gendarmerie? Craignons-nous de nous le voir enlever par quelque conspiration bordelaise?
Soyez persuadé, cher ami, que vous me faites un plaisir extrême. »
La parole fut coupée à la marquise par le valet de chambre qui annonça Paul. Comme tous les amoureux, Paul avait trouvé charmant de faire 4 lieues pour venir passer 1 heure avec Nathalie. Il avait laissé ses amis à la chasse et il arrivait éperonné, botté, cravache en main.
« Cher Paul, dit Nathalie, vous ne savez pas quelle réponse vous donnez en ce moment à madame. »
Quand Paul apprit les calomnies qui couraient dans Bordeaux, il se mit à rire au lieu de se mettre en colère.
Ces braves gens savent peut-être qu'il n'y aura pas de ces noces et festins en usage dans les provinces, ni mariage à midi dans l'église. Ils sont furieux.
Eh bien, chère mère, dit-il en baisant la main de madame Évangélista,
nous leur jetterons à la tête un bal le jour de la signature du contrat, comme on jette au peuple sa fête dans le grand carré des Champs-Élysées, et nous procurerons à nos bons amis le douloureux plaisir de signer un contrat comme il s'en fait rarement en province.
Cet incident fut d'une haute importance. Madame Évangélista pria tout Bordeaux pour le jour de la signature du contrat et manifesta l'intention de déployer dans sa dernière fête un luxe qui donna d'éclatants démentis aux sots mensonges de la société. Ce fut un engagement solennel, pris à la face du public, de marier Paul et Nathalie. Les préparatifs de cette fête durèrent 40 jours. Elle fut nommée la nuit des camélias. Il y eut une immense quantité de ces fleurs dans l'escalier, dans l'antichambre et dans la salle où l'on servit le souper. Ce délai coïncida naturellement avec ceux qu'exigeaient les formalités préliminaires du mariage et les démarches faites à Paris pour l'érection du majorat. L'achat des terres qui jouxtaient l'Anstrac eut lieu, les bans se publièrent, les doutes se dissipèrent. Amis et ennemis ne pensèrent plus qu'à préparer leur toilette pour la fête indiquée. Le temps pris par ces événements passa donc sur les difficultés soulevées par la première conférence, en emportant dans l'oubli les paroles et les débats de l'orageuse discussion à laquelle avait donné lieu le contrat de mariage. Ni Paul ni sa belle-mère n'y songeaient plus. N'était-ce pas, comme l'avait dit Madame Évangélista, l'affaire des 2 notaires? Mais à qui n'est-il pas arrivé, quand la vie est d'un cours si rapide, d'être soudainement interpellé par la voix d'un souvenir qui se dresse souvent trop tard et vous rappelle un fait important, un danger prochain? Dans la matinée du jour où devait se signer le contrat de Paul et de Nathalie, un de ces feux follets de l'âme brilla chez Madame Évangélista pendant les somnolences de son réveil. Cette phrase « Questa coda non è di questo gatto », dite par elle, à l'instant où Mathias accédait aux conditions de Solonet, lui fut criée par une voix. Malgré son inaptitude aux affaires, Madame Évangélista se dit en elle-même « Si l'habile maître Mathias s'est apaisé, sans doute il trouvait satisfaction aux dépens de l'un des 2 époux. L'intérêt lésé ne devait pas être celui de Paul, comme elle l'avait espéré. Serait-ce donc la fortune de sa fille qui payait les frais de la guerre? Elle se proposa de demander des explications sur la teneur du contrat, sans penser à ce qu'elle devait faire au cas où ses intérêts seraient trop gravement compromis. Cette journée influa tellement sur la vie conjugale de Paul qu'il est nécessaire d'expliquer quelques-unes de ces circonstances extérieures qui déterminent tous les esprits. L'hôtel Évangélista devant être vendu, la belle-mère du comte de Manerville n'avait reculé devant aucune dépense pour la fête. La cour était sablée, couverte d'une tente à la turque et parée d'arbustes malgré l'hiver. Ces camélias, dont il était parlé depuis Angoulême jusqu'à Dax, tapissaient les escaliers et les vestibules. Des pans de murs avaient disparu pour agrandir la salle du festin et celle où l'on dansait Bordeaux. Où brille le luxe de tant de fortunes coloniales, était dans l'attente des féeries annoncées.
Vers 8 heures, au moment de la dernière discussion, les gens curieux de voir les femmes en toilette descendant de voiture se rassemblèrent en 2 haies de chaque côté de la porte cochère. Ainsi, la somptueuse atmosphère d'une fête agissait sur les esprits au moment de signer le contrat. Lors de la crise, les lampions allumés flambaient sur leurs ifs et le roulement des premières voitures retentissait dans la cour. Les 2 notaires dînèrent avec les 2 fiancés et la belle-mère. Le premier clerc de Mathias, chargé de recevoir les signatures pendant la soirée en veillant à ce que le contrat ne fût pas indiscrètement lu, fut également un des convives. Chacun peut feuilleter ses souvenirs. Aucune toilette, aucune femme, rien ne serait comparable à la beauté de Nathalie, qui, parée de dentelles et de satin, coquettement coiffée de ses cheveux retombant en 1000 boucles sur son cou, ressemblait à une fleur enveloppée de son feuillage. Vêtue d'une robe en velours cerise, couleur habilement choisie pour rehausser l'éclat de son teint, ses yeux et ses cheveux noirs, Madame Evangelista, dans toute la beauté de la femme à 40 ans, portait son collier de perles agrafé par le discreto, afin de démentir les calomnies. Pour l'intelligence de la scène, il est nécessaire de dire que Paul et Nathalie demeurèrent assis au coin du feu sur une causeuse et n'écoutèrent aucun article du compte de tutelle. Aussi enfants l'un que l'autre, également heureux, l'un par ses désirs, l'autre par sa curieuse attente, voyant la vie comme un ciel tout bleu, riche, jeune, amoureux, ils ne cessèrent de s'entretenir à voix basse en se parlant à l'oreille. Armant déjà son amour de la légalité, Paul se plut à baiser le bout des doigts de Nathalie, à effleurer son dos de neige, à frôler ses cheveux en dérobant à tous les regards les joies de cette émancipation illégale. Nathalie jouait avec l'écran en plumes indiennes que lui avait offert Paul. Cadeau qui, d'après les croyances superstitieuses de quelques pays, et pour l'amour un présage aussi sinistre que celui des ciseaux ou de tout autre instrument tranchant, qui sans doute rappelle les parques de la mythologie.